Pierre de la Combe est directeur de recherche à l'EHESS et au CNRS, a travaillé depuis longtemps notamment sur la tragédie grecque, c'est-à-dire qu'il a publié des commentaires des tragédies grecques, mais il a aussi traduit des tragédies grecques avec Myrto Gondikas notamment. Il a traduit Médée, il a traduit Prométhée enchaîné, il a traduit les Sept contre Thèbes, il a traduit les Perses, et en lien avec des mises en scène précises, hein, par exemple pour la mise en scène de Médée à Avignon, mise en scène par Jacques Lassalle. On ne citerait pas toutes les autres mises en scène. Pierre de la Combe est aussi l'auteur d'essais, donc par exemple les tragédies grecques sont-elles tragiques, ou bien d'essais sur la question de la place, hein, des études antiques, de l'antiquité, du rapport à l'antique et de la signification que peut avoir l'antiquité en fait dans le monde contemporain. Et notamment il a écrit un livre qui s'appelle L'avenir des anciens, que donc on a cité hier. Et puis donc récemment, il a écrit donc une biographie d'Homère que vous pouvez tous lire donc chez Folio, et il a traduit l'Iliade dans la collection des Belles Lettres, et cette traduction est parue très 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 récemment dans un gros volume qui s'appelle Tout Homère, et qui, comme son nom l'indique, essaye de reprendre en fait effectivement tous les textes que l'on peut attribuer à Homère. Et enfin, il a récemment publié des petites conférences qui sont plus destinés à un plus grand public, on va dire, et The Transformer. Voilà. Alors, aujourd'hui, en fait, nous l'avons invité à venir s'entretenir ici avec nous dans le colloque, parce que l'idée, c'était effectivement de lui poser la question, à lui d'abord, philologue, hein, au départ aussi, hein, de son regard, hein, du regard qu'il portait sur l'œuvre d'Homère. Et donc, c'est une question que je peux vous poser déjà. Quel regard, donc, portez-vous sur cette œuvre ?
Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé de ne pas être là. Donc c'est le virus qui m'a retenu chez moi. J'ai pas eu le courage de tout le monde. Donc je suis pas confiné, mais calfeutré chez moi. Donc merci de m'accueillir. Puis en plus ça perturbe l'ordre du colloque. Donc quel regard je porte sur Homère, c'est-à-dire que donc je suis, comme Claire l'a dit, je suis philologue. Si j'ai traduit l'Iliade, c'est pour comprendre l'Iliade. C'est pas pour faire une énième traduction de l'Iliade. S'il y en a déjà beaucoup, il y en a eu des récentes, qui ont toujours un point de vue bien défini, qui est peut-être pas bien. Moi, la traduction, ça a été un outil pour voir ce qui se passe dans ce poème, et donc de lire vers à vers, même, c'est-à-dire syllabe par syllabe, pour voir comment c'est fait. Mais la question, c'est, quand on a l'Iliade devant soi, qu'est-ce qu'on a comme objet? Est-ce que c'est une tradition poétique, c'est-à-dire c'est une espèce de monument qui reprend une tradition qui s'est comme agglutinée, accumulée de manière anonyme? Et donc, dans ce cas-là, l'Iliade, c'est l'histoire d'un héros, d'Achille ou d'un mythe, la guerre de Troie. Ou est-ce qu'on a affaire à un poème, c'est-à-dire à une œuvre, avec une décision initiale qui dit, voilà, dans ce poème, la guerre de Troie, la race des héros, son rapport avec les dieux, etc., sera traité de telle manière et pas autrement. Et moi, je me suis convaincu qu'il s'agit bien d'une œuvre, il s'agit d'un poème. Il ne s'agit pas d'un auteur, c'est-à-dire qu'il faut distinguer l'œuvre de l'auteur, et il faut distinguer aussi l'œuvre, c'est-à-dire l'Iliade comme poème, avec son unité de point de vue, de perspective, du texte. Le texte de l'Iliade, comme celui de l'Odyssée, a beaucoup bougé dans les siècles. Et donc, si on dit que c'est une œuvre, ça veut dire qu'il y a un événement historique, c'est-à-dire qu'il y a une intervention, il y a quelque chose de nouveau qui se pose. Donc, moi, je suis parti de ce point de vue. C'est beaucoup plus facile quand on a ce point de vue sur la tragédie, parce que les tragédies, on peut à peu près les dater, on sait qui a fait quoi, bon, etc., ou sur Pindare, ou sur Platon. Tandis que là, c'est totalement anonyme, Homère ne se nomme jamais, et tout ce qu'on dit d'Homère sur sa vie, son bios, son mythe, c'est du mythe, justement. Et ça a la vérité et la consistance et la force d'un mythe, mais ce ne sont pas des renseignements historiques. Et donc j'ai commencé à lire l'Iliade en me posant tout simplement la question, mais de quoi ça parle? Quel est l'objet d'Iliade? Pourquoi il y a eu ce poème? Et quand on dit ça parle de la colère d'Achille, ça ne suffit pas, puisque ce qui est extraordinaire dans ce poème, et ça d'autres ont commencé à le voir avant moi, évidemment, Karl Reinhardt en Allemagne, et donc ce grand ami qui est Philippe Rousseau, avec qui j'ai beaucoup travaillé à Lille, l'Iliade, ça a quelque chose de tout à fait unique, c'est-à-dire que ce n'est pas un poème sur la geste d'Achille, comme le Beowulf est un poème sur la geste de Beowulf, ou le Gilgamesh sur la geste de Gilgamesh, ce n'est pas non plus un poème sur la guerre de Troie, avec dans l'ordre, comme on avait ça sans doute dans les chants cypriens, c'est un poème qui décide de raconter tout ce qu'on peut dire sur les humains, sur dans leur dualité grec versus troyen, ce sont comme deux civilisations différentes, et aussi grec humain versus dieu, tout ce qu'on peut dire sur le réel, à partir de, d'un point, la colère d'Achille, un affect, qui est un affect qui détruit tout. Et donc le poème est construit de manière très bizarre, ça pendant des chants, et des chants, par exemple, raconte la guerre de Troie, alors que Achille s'est mis en colère, donc personne ne peut gagner. Donc il y a des substituts d'Achille, Diomède, Ajax, mais qui ne peuvent jamais gagner. Et donc le poème est fait de manière très bizarre, c'est comme si on racontait le mythe global de Troie, qui est un mythe de la qui concerne la race des héros, qui concerne l'humanité dans son avenir, dans son devenir, pardon. Et donc ça re-raconte tout ça, mais à partir d'un prisme très précis, avec les affects d'Achille qui sont monstrueux dans sa colère, qui était une colère que le poème commence par maudire au vers deux, ou l'homénène, ça veut dire je la maudis, cette colère tellement c'est ignoble, mais ça choisit de raconter tout le réel à partir de ça, et le réel des dieux, le réel et des héros, le réel passé. Donc j'ai avancé comme ça, petit à petit, et donc on voit que c'est un patchwork, mais un patchwork extraordinairement organisé selon une perspective, et qui est fait de reprises de traditions antérieures, telles que si on peut les reconstruire. Voilà, donc, donc après, il faut se demander, mais est-ce que Homère fait la leçon, nous dit quoi que ce soit sur sur la vérité, sur les dieux, sur les hommes? Est-ce qu'il a une théorie, comme Hésiode, qui est son quasi donc contemporain? Excusez-moi, il y a ma chatte qui passe derrière. Donc comme Hésiode, lui fait un système des dieux, des héros, de l'humanité. Homère, absolument pas. Ce sont des expériences qu'il met bout à bout en demandant aux auditeurs de voir comment ça leur parle et qu'est-ce qu'ils apprennent, justement, quels symboles ils peuvent en tirer pour leur propre expérience. Et en plus, alors c'est une poésie, mais c'est une poésie fabuleusement belle et extraordinairement précise et réflexive. Homère s'amuse beaucoup, enfin les Homères, on peut penser que c'est un groupe d'Aède, une école d'Aède que je mettrais au 8e siècle avant Jésus-Christ, sans pouvoir vraiment la situer dans le siècle, enfin très tôt. Et on joue sur les mots, on les déplace, etc., avec des modes de composition hérités, mais la répétition formulaire permet justement cette espèce de distance de jeu. On dit une chose d'une manière, on la dit quasiment de la même manière 10 vers après, ou 1000 vers après, et donc ça crée un écho, ça fait une distance extraordinairement réflexive.
Pour rebondir un peu sur cette dimension réflexive, en fait, au cours du colloque, là, en fait, on a beaucoup, dans les réinterprétations modernes, on a beaucoup trouvé, d'interrogations et de relectures autour de la figure de l'Aède, autour de cette figure-là, et autour des interrogations sur ce que signifie, justement, compter, ce que signifie chanter, ce que signifie, être rhapsode. En fait, est-ce que, là-dessus, justement, la manière dont vous l'abordez, notamment dans l'Odyssée, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler, là? Cette dimension réflexive sur la composition elle-même.
C'est vrai que la figure de l'Aède apparaît surtout dans l'Odyssée, donc dans l'Iliade presque pas, plus ou moins, mais enfin elle est pas centrale, tandis qu'elle est centrale dans l'Odyssée, et c'est absolument vraiment magnifique, parce que dans l'Odyssée il y a une vraie sociologie des professions, sociologie des Aèdes par rapport aux charpentiers, par rapport aux mendiants, par rapport aux rois, aux paysans, etc. Il fait partie de ce qu'on appelle les démiurges, les Aèdes, et les démiurges on les invite. Donc ce sont pas des gens qui viennent, qui errent, qui se promènent comme ça, et puis qui viennent chanter ça et là, on les invite, ce sont des contrats, quoi. Mais ils viennent de l'extérieur, donc ça c'est très intéressant, ce sont même Démodocos qui est dans l'île des Phéaciens, mais il veut pas aller ailleurs, mais on va le chercher, c'est-à-dire qu'il faut le payer, donc on lui donne une grosse part de viande, etc. Et alors ce qui est vraiment passionnant, c'est que, et c'est là où Homère, donc il a un petit côté Bourdieu aussi, il fait la sociologie de la production du chant avec la figure de Démodocos, mais précisément Démodocos, ce n'est pas lui. Démodocos chante donc chez les Phéaciens la guerre de Troie, de manière même avec beaucoup d'humour, avec les amours d'Arès et d'Aphrodite. Ça, ce sont les deux divinités qui font la guerre de Troie, parce que c'est une guerre pour l'amour d'Hélène. Et donc Démodocos chante. Il chante en plus, qui n'est pas dans l'Iliade, le cheval de Troie. Ça, c'est Ulysse. Et les Achéens sont fascinés, sont pris de plaisir, sauf Ulysse qui pleure. Mais le gros du récit, c'est pas Démodocos, c'est Ulysse qui ne va pas chanter, mais qui va raconter lui ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et la réaction des Achéens, ce n'est pas des Phéaciens, pardon, qui écoutent ça, ils sont stupéfaits. Ils sont pas dans le plaisir, justement. Ils sont stupéfaits. Alors là, on voit bien, c'est comme s'il y avait ce que fait un Aède normalement, Ulysse, qui n'est pas un Aède, qui raconte quelque chose de, qui est sublime, stupéfiant, etc. Alors il fait ça aussi pour gagner la bienveillance des Phéaciens. Et l'Aède, il y a un Aède, Homère, ou celui qui chantait de l'Homère dans les grandes cérémonies, qui qui est encore, qui fait de la méta, c'est un méta à haine, il y a certaines manières. Et donc, l'art de la haine, c'est de pouvoir, comme fait Homère, reprendre tout ça, reprendre toutes les formes, c'est-à-dire ou bien des contes drôlatiques, ou bien des histoires telles qu'on les raconte dans une certaine version, ou bien même de la poésie qu'on en dit gnomique. Ulysse fait la morale avec les jeunes Phéaciens. Il dit, voilà, la vertu, c'est ça. Et là, donc, ça veut dire que ce qui est devenu l'élégie, ensuite, ce qu'on connaît comme élégie, ça existait déjà. Donc, Homère, il reprend toutes ces traditions, les romans d'apprentissage des jeunes chevaliers, enfin, du jeune Nestor dans l'Iliade, etc. Il reprend tout ça, il met ça dans des situations très, très étonnantes, c'est toujours surprenant, mais avec toujours une question. Ulysse, c'est pas un voyage d'initiation, c'est même l'inverse. C'est-à-dire, c'est comment rentrer chez soi après avoir été l'homme le plus glorieux qu'on puisse imaginer, l'homme le plus aidé par les dieux dans le massacre qu'il a pu faire à Troie. Et donc, c'est comment on revient chez soi, c'est-à-dire comment on revient au présent. Comment on va se confronter à des jeunes qui, eux, étaient trop jeunes pour faire la guerre de Troie. Qu'est-ce que ça veut dire que retourner dans un monde normal, le monde dont parle Hésiode. Mais Homère ne fait jamais la leçon sur ce qu'est ce monde, il dit jamais ce qu'est la justice, le travail, ça c'est pas ça qui l'intéresse, c'est comment, qu'est-ce que la société, mais comment on peut passer, on peut comparer la société présente avec la société de l'Iliade, enfin de cette geste héroïque, et toutes les sociétés que l'on traverse, les Cyclopes, les Phéaciens, puis aussi les non-sociétés, comme Circé, Calypso, etc., ou les sirènes, voilà. Ce sont toutes les formes possibles d'imagination du social que l'on traverse pour venir au monde répétitif et banal, prosaïque, si on peut dire, d'Ithaque. Et l'Iliade, c'est quand même autre chose. C'est quoi une vie achevée, un destin, une vie close, donc la vie des Troyens, là, on sait qu'ils vont être détruits juste après l'Iliade, ou la vie d'Achille et la vie d'Hector, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que ces vies qui sont prises dans des paradoxes gigantesques où Hector est l'homme que Zeus préfère, mais il doit l'abandonner. Donc, vous voyez, donc là, il y a vraiment une espèce d'interrogation sur le sens du temps. Qu'est-ce que l'histoire, non pas l'histoire comme progrès ou comme histoire nécessaire, mais qu'est-ce que le temps vécu par les humains dans leur confrontation avec, entre eux, mais surtout avec les dieux. Donc, vous voyez, et ça en temps de crise, parce que la colère d'Achille, elle met en crise l'Olympe, qui est quasiment en état de guerre civile, les Troyens, qui se deviennent fanatiques de certaine manière, Hector s'aveugle, et les Grecs.
Justement, je rebondis encore sur le fait que vous parliez de crise, parce que notamment, c'était une deuxième ligne, il y avait la question de la haine, mais c'était une des deuxièmes lignes, en fait, de proposition dans le colloque, et donc on en vient justement à cette question qui est celle du colloque lui-même, c'est-à-dire, en fait, la question du besoin d'Homère aujourd'hui, qui est une expression qui vous est due, hein, l'expression du besoin d'Homère. Et donc, en fait, je voulais vous demander, là, cette fois-ci, justement, comment vous pouvez expliquer, vous, comment vous expliqueriez, hein, plutôt, ce besoin d'Homère, hein, aujourd'hui.
Il y a des niveaux naïfs, mais c'est tellement beau que, bon, même dans toutes les traductions, quoi. Et moi, ça m'est arrivé de faire un cours en maternelle sur Achille et être Achille ou Ulysse. Vraiment, maintenant, et ils étaient surpris par le degré de connaissance, ils connaissent ça, alors même si c'est transposé dans les mangas, etc. Mais ce sont des histoires extraordinaires, ils sont vraiment au courant, et donc c'est fascinant, les histoires. Quand on re-raconte Homère de manière très simplifiée, ça reste fascinant. Alors ensuite, il y a effectivement que, il y a, comme on dit, ça c'est banal, dire il y a le désarroi, etc. On a eu Star Wars, mais Star Wars, c'est une épopée protestante. Donc, c'est-à-dire la force est en toi. Donc, c'est le sujet qui doit être capable. C'est un peu luthérien, quoi. Qui doit être capable de reconnaître comment les dieux ou Dieu, là, comment dire, lui a donné la force. Et il doit retrouver ça, même à travers les horreurs de son père n'est pas son père, donc qui est son père, etc. Bon, ça, dans un pays catholique comme nous, je veux dire, ça va, c'est marrant, mais je veux dire parce que les effets spéciaux sont très bien, mais c'est pas prenant. Tandis que avec l'Odyssée, avec l'Iliade. On a la question du social qui se pose de manière extrêmement forte. Le héros, donc on a besoin de figures de héros. On a vu ça pendant le confinement. On a héroïsé, on a dit c'est la guerre, etc. Et comme en France, on aime bien la paix, mais on aime bien se penser en état de guerre possible, ou en état de stasis, en état de guerre civile, etc. On est toujours entre crise et ordre. Donc parfois, ce sont les mêmes qui veulent les deux. Avec Homère, où on n'arrête pas de se taper dessus, de se massacrer, de tout ça, il y a une espèce de, par rapport à Star Wars, hein, quand même, qui est différent, parce que Star Wars, c'est la corruption de l'État américain. Il a voulu faire ça, montrer comment la démocratie pouvait devenir l'empire du mal. Nous, on n'en est pas là. Dire qu'on veut, comprendre ce que c'est que la lutte. Et ça, c'est notre modèle, disons, français, quoi. Et, Homère, du coup, ça peut répondre à quelque chose, et puis le retour chez soi. malheureusement, donc il y a une espèce de nostalgie, du, même si on est sur place, quoi, de dire voilà, on veut la patrie, on veut quelque chose comme ça. En plus, il y a l'idée voilà de quand les Grecs ils sont braves et grands, donc on retrouve des tas de comment dire une espèce d'héroïsme français. Bon, enfin un peu pénible, je veux dire. Et le voilà, mais avec des grandes interrogations parce que Achille a mal, il souffre, et puis quant à Ulysse, et Ulysse il est malin, c'est ça. C'est que il échappe à tout, et ça c'est typiquement français. Donc on veut échapper à toutes les adversités. Je crois qu'il y a un côté français du retour à Homère. Non, il y a des retours à Homère extraordinaires dans d'autres pays, en Italie, bon,
oui.
Bon, dans les Antilles, bon, tout ça, ça c'est d'autres. Mais je veux dire qu'en France, je veux dire c'est quelque chose de cet ordre-là. Quoi. Donc on veut des héros qui se battent, qui souffrent, parce qu'on est catholique et donc c'est par le mal qu'on arrive au bien.
Et du point de vue de la forme, peut-être aussi, quand on dit qu'il y a un besoin d'Homère, ça correspond aussi à la confrontation avec l'épopée, enfin voilà, et de ce point de vue-là, en fait, en quoi, à votre avis, justement, la confrontation à cette épopée, avec cette œuvre un peu comme ça, cohérente, bah, pourrait correspondre aussi à quelque chose qu'on recherche aujourd'hui?
Ça dépend comment on le prend, parce que si on dit, effectivement, on voit bien dans des gens qu'on va pas nommer ici, enfin qui nous disent, alors là c'est pas vraiment la forme, mais c'est voilà, Homère nous a tout dit, il y a une sagesse, l'Odyssée nous apprend que c'est bien d'avoir un chez-soi. Alors on dit, si Homère c'est ça, on ferme tout de suite, on arrête, ça n'a strictement aucun intérêt, quoi. Mais au niveau de la forme, je pense que là il y a quelque chose de passionnant, parce que c'est vraiment paradoxal. On peut pas nier que quand on lit l'Iliade, en Grèce, si on peut dire, ou l'Odyssée, il y a une unité. Donc il s'agit de la colère d'Achille et ce que ça va donner à la fin, c'est-à-dire c'est la mort d'Hector, c'est-à-dire en fait la mort d'Achille qui va et la prise de Troie qui se profile là tout de suite. De même l'Odyssée, il y a une unité, comme disait Gérard Genette, on peut résumer l'Odyssée par la phrase Ulysse veut rentrer chez lui mais il a des problèmes. Donc là vous avez les 24 chants donc qui sont résumés. Donc il y a quelque chose, donc c'est relativement clair, mais ce qui est frappant c'est que par rapport à un roman. Donc, où cette unité serait donnée de manière, on peut dire, aristotélicienne, quoi, avec une intrigue qui se développe, on a l'impression que c'est n'importe quoi. Bon, par exemple, le début de l'Iliade, vous avez, donc, au chant 1, Achille se retire, et il ne revient que, donc, en réalité, au chant, ne trompe pas, au chant 18. Donc, entre 1 et 18, les Grecs ne peuvent pas gagner. Donc, alors, certains ont dit, c'est inutile tout ça, donc c'est plusieurs auteurs, on a dit voilà, blablabla, etc. Alors que c'est pas ça, c'est que il y a un côté uchronique dans Homère, c'est pour ça que c'est extrêmement raffiné. Il dit racontons une Iliade sans Achille pour voir ce que ça donne. Une Iliade qui ne peut pas aboutir, donc où, du coup les forces des deux camps, ce qui représente, s'exacerbent, et on est dans une poétique de la juxtaposition. On n'est pas dans une poétique de l'enchaînement causal, même si il y a un enchaînement causal, puisqu'il est dit au début, tout ça c'est la volonté de Zeus qui se réalise. Alors que, certes, il y a ça, il y a un enchaînement causal, c'est le destin, ça c'est la volonté de Zeus qui est telle qu'elle doit se réaliser, mais c'est présenté à travers de tels détours qui font que beaucoup de mythes sont repris, redits, etc. Et donc c'est une espèce d'allégorie permanente d'une foison de discours et de récits possibles. Et donc c'est juxtaposé, et ça correspond à des choses que on peut parfois appeler le roman choral maintenant, donc ce qu'on lit chez Virginia Woolf, qui était très très grande connaisseuse d'Homère, ce qu'on lit évidemment chez Joyce, ce qu'on lit chez un auteur que j'adore, Chilien Roberto Bolaño, donc il connaissait très bien aussi Homère. Donc il y a cette forme paradoxale de juxtaposition jusque dans la langue. Donc François de Toulon pense être d'accord, ça c'est le grand helléniste Pierre Chantraine qui avait vu ça, c'est pas une langue syntaxique, c'est-à-dire c'est une langue où on ajoute, il y a une chose, on ajoute, ça c'est lié à l'oralité, parce que c'est une poésie orale, donc c'est pas une poésie d'enchaînement syntaxique complètement rigoureux, c'est par apposition, comme dit Chantraine, or un grand helléniste, Bakker, a vu que c'est comme ça qu'on parle dans les banlieues de New York. C'est-à-dire que ce qui va donner le rap ensuite, c'est par adjonction. Et alors justement, c'est une poésie qui oblige donc à penser simultanément, enfin dans une succession, mais du coup à penser dans un rapprochement des choses très différentes, en étant aidé par ce qu'on appelle la ring composition, c'est-à-dire que la composition annulaire. Donc vous avez un élément A, un élément B, un élément C, puis après B prime, puis A prime. Ça peut se donner sur 3 vers, 4 vers, mais ça peut aussi se donner sur 5000 vers. Ce sont des modes que tout le monde connaissait, la haine connaissait, que le public connaissait. ça crée des attentes, parce qu'on s'y dit A et B, on se dit, mais comment il va dire ensuite autrement, B', A'. Et donc, c'est hyper travaillé, mais justement de manière paradoxale, parce que c'est une multiplication de points de vue. L'Iliade est un poème cubiste, c'est-à-dire que la même chose, la colère d'Achille, est vue de X points de vue différents. Et donc, ça juxtapose ces points de vue avec même des langues différentes. Les héros ne parlent pas la même langue selon la situation où ils sont. Ce sont des formulaires différents. Donc c'est extraordinairement riche. Poème de totalisation. Et on voit les romans de Bolaño, par exemple, veulent être aussi, prétendent aussi à une forme de totalisation. Ces romans de 900 pages, etc. Mais en dehors de ce qu'on faisait, comme George Eliot, etc., c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on ne, on déroule pas quelque chose, on met ensemble. Et puis c'est le public qui doit ensuite comprendre, voir les liens. Et ça, c'est extraordinairement contemporain, je veux dire. Mais c'est s'il y a la poésie et la littérature contemporaine, qu'on peut ne pas se choquer des incohérences dans le récit d'Homère, on dit ça fait partie du mode de composition. Alors qu'au XIXe siècle, on cherchait l'auteur, et donc dès qu'il y avait une incohérence, par exemple, fin du chant 1, tous les dieux s'endorment, début du chant 2, Zeus ne dort pas. Alors, bon, donc, c'est pas le même homme qui a pu composer les deux chants, donc, d'où la théorie des petits chants. Leader. Bon, ça, c'est l'Armand, donc 1830. Donc, c'est le vrai début de la querelle homérique. Mais alors, comme maintenant, on n'a plus du tout cette esthétique, et donc, mais du coup, la tentation, c'est de se dire, comme on a déconstruit, on a dégonflé l'auteur, etc., Foucault, Barthes, tout ça, on se dit, la preuve, vous voyez, Homère, on n'a pas besoin d'auteur. Effectivement, c'est pas signé, donc on ne sait pas. Sauf que c'est bien une intervention historique, bien définie, de recréer tout, re-raconter la guerre de Troie, que les Grecs connaissaient mille fois, de cette manière-là. Et ça, je crois que là, on a quelque chose d'extrêmement précieux. C'est-à-dire que le besoin d'Homère, ça peut être aussi ça peut être, aller à mon avis, dans un sens un peu faux romantique. Comme dans le peuple, à l'exposition du Louvre de Lens, là, il y avait un tableau de Corot, on voyait Homère qui chantait aveugle avec des petits moutons dans la nature. Ce qui est, alors ça, c'est l'idée romantique qui correspondrait à ce que dit Hésiode, dit de lui-même, mais qui correspond absolument pas à Homère. Homère, c'est un poète urbain. Même son mythe l'en fait, lui il va de ville en ville, et une fois il s'est perdu avec des chèvres autour de lui, donc il est affolé, je veux dire, donc au contraire, c'est pas comme Hésiode avec ses moutons. Donc c'est pas du tout le retour à naïf, à la nature, etc., c'est extraordinairement urbain.
Je reprends aussi ce que vous disiez, donc en fait, le fait que vous disiez, par exemple, vous avez dit à un moment, en parlant là, c'est cubiste, hein, que effectivement, depuis l'idée de déconstruction de l'auteur, on peut le penser comme ça, il y a l'idée aussi qu'on peut donc inverser le processus qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un besoin d'Homère aujourd'hui, et en même temps que d'une certaine manière, si on inverse, hein, dans un processus anachronique et cher à la littérature comparée, on pourra dire que les catégories d'aujourd'hui, ou même les œuvres d'aujourd'hui, ou la poésie d'aujourd'hui, peut-être, nous permet aussi de reconsidérer ou de lire différemment, justement, l'œuvre homérique. Est-ce que vous seriez d'accord avec...
Complètement. C'est-à-dire que, pour le dire, mais encore très, très grossièrement, c'est-à-dire qu'on a dit longtemps, Homère, c'est naïf. Hein. Schiller, ça, la poésie naïve, donc il adhère au réel, il dit le réel, et le point de vue de l'auteur ne compte pas. Simplement, c'est le réel tel que c'est, alors c'est bien le réel social ou le mythe, etc., c'est que on a supposé comme un état de nature, bon, un peu bizarre comme idée, où les humains adhèrent aux normes, aux valeurs, donc ils sont contre les dieux, mais la réalité est là, ils sont dedans, ils sont pris dedans, et l'épopée serait ça, un monde plein. Puis après, on a dit, la subjectivité a travaillé sur elle-même, c'est séparé, c'est le lyrisme, puis c'était la tragédie, puis ça devient la modernité, avec l'ironie, etc. Donc, comme vous savez, le roman est ironique alors que l'épopée, enfin, dit Lukács, alors que l'épopée, on est en plein dedans, on baigne dans l'objectif. Maintenant, on est encore en une autre étape, c'est-à-dire que même l'ironie, on en a assez, etc., la subjectivité, on en a assez, on est dans des réalités qui sont, comment dire, on condamne l'idée d'intention de l'auteur et on arrive à des formes esthétiques, romanesques, on peut refaire de l'épopée, comme de la Walcott, etc., bon, ça se fait beaucoup moins en France, mais on peut refaire de la poésie narrative. Donc sans point de vue, c'est pas Victor Hugo. L'état actuel de la littérature permet de repenser Homère, mais surtout permet de critiquer cette idée, à mon avis métaphysique, c'est du Heidegger, de l'absence de l'auteur. C'est-à-dire que c'est pas l'auteur qui compte, c'est le fait qu'il y a bien eu un moment, une intervention dans l'histoire, et qui fait que des gens, donc en Asie mineure, au 8e siècle, on pense à peu près à l'époque de la création des Jeux Olympiques, se sont dit, on va faire ça. On va faire autrement, on va raconter tout ça, donc dans une épopée monumentale, tout de suite, toute l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la guerre de Troie, qui est la fin de l'âge des héros, à partir d'un petit événement, la colère d'Achille. Et donc, ça déclenchait une reconsidération de toute la tradition, qui s'apprête en pas à être nouveau, mais visiblement, ça reprend. C'est le montage qui est nouveau. Et ça, alors que quelqu'un comme Hésiode va dire, je vais tout vous redire, mais d'un point de vue systématique, c'est déductif. C'est moi, je vais vous dire ce que sont les dieux, pour vous dire ce qu'est la justice, et donc comment il faut vivre. Homère, pas du tout. Et donc, ça, je crois que ça fait un tel choc, que c'est ça qui a été repris, finalement. Malheureusement, ça a écrasé complètement le reste, puisqu'on a perdu toutes les milliers d'épopées qui faisaient de l'homme autre chose qu'Homère, mais sur les mêmes sujets. Le contemporain permet de comprendre mieux, mais du coup, c'est-à-dire l'interprétation est toujours ouverte. Mais simplement, c'est un retour. C'est pas qu'on applique à Homère des catégories contemporaines, c'est qu'on peut aussi critiquer les catégories contemporaines quand on voit ce qu'Homère en a fait.
Oui. Et on voyait là, c'est quelque chose qui est revenu aussi très souvent dans le colloque. On avait le croisement, du coup, aussi très souvent. Enfin, on a vu ça notamment aux États-Unis, mais aussi parfois aussi en France, entre le champ philologique ou le champ de l'érudition, je veux dire de façon plus large, voilà, ou le champ des études, et les réécritures et la fiction, quoi, en fait. Et donc, justement, et par exemple, le fait que, aussi, les travaux de Calame, par exemple, ont pu être parallèles à des renouvellements poétiques sur la question de la Aide, par exemple. Enfin, vous voyez, et donc, cette circulation, en fait, du fait qu'on a un regard aujourd'hui différent porté par les écritures poétiques, elle se nourrit aussi des travaux philologiques. C'est-à-dire que vous, en fait, et votre réflexion, elle se nourrit aussi, vous disiez aussi, de la lecture, par exemple, de Celan, la lecture de... Donc, il y a un croisement entre poésie, philologie, enfin, qu'on retrouve...
Alors, ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, comme vous savez, la science ne marche que par la polémique et le désaccord, la distinction. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que dit Claude Calame sur la haine, qu'on s'entend par ailleurs bien, je veux dire, bon, c'est quelqu'un que j'admire, mais c'est vrai que la position de départ n'est pas la même, parce que pour... bon, je ne vais pas discuter là, mais je veux dire, moi, je crois à l'historicité, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. On n'est pas dans des quelque chose, dans des grandes structures, disons qui seraient comme l'armature d'une société qui bouge pas. Je pense que tout est historique. Bon, donc même d'un point de vue anthropologique, moi j'ai une admiration gigantesque pour Lévi-Strauss, que je trouve génial. Il y a des gens comme Bazin, etc., ou Alban Ben Sack, qui pensent en l'anthropologie, une anthropologie de l'action. Et je pense que c'est plutôt vers ça que j'irai. Et donc, je crois pas au fait qu'il y ait des structures, qu'un aède chante d'après les attentes du public, on n'en sait strictement rien. Parce qu'il ne va pas répéter, c'est pas des feuilletons, quand même. Donc, des séries comme on dit. Donc, au contraire, les gens peuvent demander du sublime. Ils peuvent demander que d'être complètement étonnés. Et comme, ce qui est frappant, le fait, par exemple, que l'Iliade, donc, ait pris cette décision de se concentrer sur uniquement la colère d'Achille, alors que le texte a évolué, on a rajouté le chant 10, la Dolonique, assez tôt, on a rajouté ça, qui est un chant extraordinaire, parce que c'est une Iliade de nuit, avec Ulysse, là, cette fois, et non pas Achille. Non, je veux dire, ça colle, quand même. C'est que les bornes que le récit s'est fixé n'ont jamais, jamais été transgressées. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de... Donc, les gens, ils ont vu ça. Et après, première chose, et deuxième chose, quand on lit Hérodote parlant de la religion, pour lui, alors ça s'est critiqué, évidemment, mais pour lui, la religion vient d'Hésiode et d'Homère. Donc les anciens ont tous perçu Homère, qui mettait avant Hésiode, en général, comme une rupture. Alors quand je dis, c'est vrai, des collègues, Homère c'est révolutionnaire, alors là ils sont un peu étonnés, parce que on a trop l'idée de la tradition, et philosophiquement ça vient d'un courant très très précis, c'est l'idée que c'est la tradition qui s'exprime elle-même. Ça, c'est du Hans-Georg Gadamer, c'est-à-dire c'est un élève de Heidegger qui a appliqué ça à l'histoire. Et donc, ce serait l'idée que la langue parle, c'est la langue qui se développe elle-même et qui, avec ses contraintes, tout ça. Alors moi, je pense que sur la langue, on doit avoir deux points de vue, et comme disent mes étudiants, il faut être schizophrène, sinon on ne comprend pas. Effectivement, la langue parle, c'est la langue qui parle, donc les codes s'imposent, donc le code formulaire, etc., ça s'impose. Mais d'un autre côté, la langue est aussi parlée. La langue est parlée par des gens, par quelqu'un, par des personnes dans des situations historiques définies qui vont changer la langue. On voit bien ça à l'époque classique, le grec n'est plus le même après Échille qu'avant. C'est un grec différent. Et donc, comme disait un linguiste que j'aime bien, François Rastier, chaque énoncé est diachronique. un énoncé, mais le premier vers de l'Iliade et l'Odyssée, c'est une reprise et se distingue d'autres premiers vers possibles. Donc la langue est parlée en même temps et elle parle. Il faut avoir ces deux points de vue toujours en même temps. On ne peut pas dire que la langue parle et qu'ensuite la société parle, la situation d'énonciation, de rituel parle, etc. Là, je crois pas. Parce que ça peut arriver comme ça, mais le dire sinon, ça serait pas l'Iliade. Les gens n'auraient pas, adopté l'Iliade comme texte fétiche dans des siècles.
Pour arriver à un troisième temps, parce que voilà, dont je voulais qu'on parle aussi, c'était la question de votre traduction et de votre pré-traduction. Voilà, assez simplement, mais vous pouvez nous dire quelles questions vous vous posez quand vous avez traduit l'Iliade, quelles questions vous vous posez, qu'est-ce qui vous paraît en fait spécifique, problématique, ce que vous cherchez à restituer, ce que vous cherchez à inventer, enfin voilà, bref, votre atelier un peu comme ça.
Je veux dire que c'est pas des questions de traduction, C'est que d'abord, moi, j'ai voulu comprendre. Donc, sur ma table, alors c'est vrai que je suis un peu vintage. Il y avait des éditions anciennes du 19e siècle, beaucoup. Mon texte de base, c'était un texte de 1902, hein, de Walter Leaf, anglais, qui est extraordinaire. Et puis les commentaires allemands, etc. Bon, ce qu'il y a de en français, il n'y a pas grand-chose. Il y a les introductions de Mazon, mais il n'y a pas grand-chose. Mais mes index, tout ça, puis évidemment les scolies, tout ça. Donc je travaille avec ça, quelques traductions, et je veux dire dont je suis tombé vraiment admiratif, amoureux de cette traduction, celle en anglais de Richmond Latimer, qui est extraordinaire, c'est un truc vraiment stupéfiant, on n'a pas l'équivalent en français, parce qu'ils ont notre histoire de l'anglais, puis aussi la manière dont on traduit ce poète irlandais Seamus Heaney, donc quand il traduit Virgile, bon c'est hallucinant, quoi. Donc j'avais ça, puis des traductions italiennes, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Vraiment, alors, en faisant l'ascension, quand il y a des choses vraiment tout à fait bizarres, en voyant, et chaque mot, alors, je dois dire que, quand j'étais plus jeune, on m'a dit, faut pas lire le Bailly, le dictionnaire pour lire Lidl Scott, mais je veux dire, le Bailly est un dictionnaire extraordinaire. Enfin, bon, c'est vraiment la philologie. Et j'avais le dictionnaire de Chantraine. Pour chaque mot, le dictionnaire homérique, comment il est employé? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et après, je me lançais, une fois que j'avais à peu près compris, sauf que j'ai changé d'interprétation plein de fois, je me lançais, pas dans l'ordre du poème, mais c'était pour mes séminaires à l'HESS, et dans l'idée quand même que ce qui compte, j'ai pas voulu faire de métrique, parce que ça m'ennuie, puis je sais pas le faire, je trouve que ça ronronne, et puis du coup, c'est tellement précis, Homer, que ce qu'il faut rendre, c'est le mouvement de chaque vers. Donc j'ai traduit vers par vers, et ça, on a vu, par exemple, la formule, on dit souvent, oui, c'est pour boucher un verre qu'à la fin, mais pas du tout, ça, Pietro Pucci a vu ça, la formule, c'est le trésor, c'est le joyau, c'est ce vers quoi tend le verre, c'est pour ça que métriquement, le début du verre est en général pas déterminé, à la fin, c'est vraiment figé, parce qu'il faut arriver à la formule. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est l'enchaînement, les basculements, les catastrophes à l'intérieur même d'un verre. Souvent, les vers sont construits sur l'antithèse, achéen, troyen, etc., mais il y a des ruptures, bon. J'ai voulu essayer de garder ça, de voir comment Homer mettait en scène le langage. Parce que le langage n'est pas expressif simplement de son identité d'aède, de la mentalité grecque, pas simplement précis pour dire les choses, ça Dieu sait si ça l'est, mais c'est dit, voilà, vous savez, dans la tradition on dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les mots sont des citations, des monuments, et donc il joue avec ça. Donc j'ai essayé un petit peu, dans la mesure de mes moyens, de faire ça. Et surtout, le point essentiel, c'est que Homer, c'est incroyablement émouvant. Moi, ça m'est arrivé une fois de pleurer devant une phrase, après j'ai vu que c'était un contresens. Donc, c'est incroyablement émouvant, tous ces massacres, tout ça. On est pris, c'est fait pour être pris. Donc, ce qu'il faut viser, c'est l'émotion. Ce sont les affects, la colère d'Achille, c'est un truc hallucinant. Et donc, il faut viser ça. Dans cette violence, comment cette violence peut produire une forme de, malgré tout, de beauté, je veux dire, donc qui fait que la violence extrême de la guerre, on peut se l'approprier.
Justement, pour terminer, vous disiez, j'ai traduit l'Iliade à la fin, en essayant de restituer l'émotion, par exemple l'émotion de la violence, les affects de la violence. Si vous deviez traduire l'Odyssée, je sais, c'est un peu à brûle pour point, ce que je vous demande comme ça, parce que vous n'avez pas traduit forcément l'Odyssée, mais quand même, je crois que vous vous êtes posé la question, est-ce que vous le traduiriez différemment? Est-ce que vous auriez d'autres...
J'ai traduit 3-4 chants de l'Odyssée. Bon. J'aime beaucoup Jacques Côté, qui est un immense poète. Bon, je suis pas content de ce que j'ai fait. Quand je relis, je dis ça va pas, parce que c'est presque la même langue qu'Homère, mais c'est pas la même construction. du poème. C'est-à-dire que les atomes peuvent être les mêmes. Donc, quand on traduit l'Iliade, on a besoin de comprendre l'emploi du mot au sein d'une phrase ou dans l'Odyssée. Mais je veux dire, le point de vue est tellement différent, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est très étonnant, ça. Et ça, pour moi, c'est encore un mystère. Le point de vue atomique, si on peut dire, c'est la même chose. Les éléments sont les mêmes. Mais les phrases, la construction, les épisodes, etc., comment ça s'enchaîne, c'est pas du tout pareil. Donc, faut trouver quelque chose d'autre. Et ça, j'ai pas encore trouvé. Donc, pour ce que j'ai fait, pour l'instant, c'est un peu lourd, c'est un peu balourd, quoi. Alors que pour l'Iliade, j'ai mis du temps, hein, quand même, à trouver quelque chose qui où on soit porté. C'est-à-dire qu'il faut pas arrêter, faut pas montrer, vous voyez, comme je sais traduire. Non, faut se laisser porter, quoi. Et là, pour l'Odyssée, j'ai pas encore trouvé, mais ça va venir. Moi, j'ai bien envie de faire traduire l'Odyssée, parce que c'est un immense problème. Quelle est la relation historique entre l'Iliade et l'Odyssée? Et ça, c'est bon, ce que Benjamin Constant disait, voilà, l'esprit humain né à lui-même dans la liberté, justement, quand on parle de l'Iliade à l'Odyssée. Bon, si c'est contemporain, c'est un peu dur de dire ça. Est-ce que c'est le thème qui est différent, simplement? Là, on a une vraie question. Faut comprendre quel est le rapport entre poésie et histoire. Comment il y a un avant et un après. Alors, on peut se tromper complètement. Mais je veux dire, c'est passionnant.
Et justement, ce matin, on parlait de la violence de l'Odyssée. Est-ce que vous parliez de la violence de l'Iliade? Et on parle souvent de la violence de l'Iliade. Franck Collin, là, notamment, mais hier aussi, Magali Jeannin, on a parlé du massacre des prétendants. Une scène dont, en fait, on ne parle pas souvent. Magali Jeannin montrait que dans la littérature jeunesse, hier, que le massacre des prétendants était complètement évacué. Et justement, cette violence-là de l'Odyssée, en fait, alors qu'on associe l'Iliade à la violence de l'Odyssée, et cette question un peu quand même problématique du massacre des prétendants, elle est effectivement davantage passé sous silence quand on évoque l'Odyssée. Comment vous la comprenez-vous, en fait, cette violence de ce champ-là?
D'abord, les Grecs étaient, c'est une banalité, excusez-moi, c'était des brutes, étaient hyper violents. Quand ils prenaient une ville, ils les massacraient. Donc, et puis ils réduisaient les femmes à l'esclavage sexuel, et les enfants, ou ils les tuaient, ou ils les gardaient, quoi. Mais c'était hyper violent. Donc là, hier, j'ai une discussion avec Vincent Azoulay et Paulin Ismar sur la fin de la guerre du Péloponnèse. Il massacrait, donc il n'y avait pas du tout le droit de la guerre. Et donc Ulysse, il ne sait faire que ça. Il a gagné Troie avec le cheval qui est tué. Alors ça, c'est aussi le cheval, c'est un crime contre l'humanité. Ça, ils en avaient conscience, c'est que les dieux ont été tellement furieux que du coup ils ont tué la plupart des héros grecs qui reviennent de Troie. C'est la fin de l'âge des héros, quoi. Et donc Ulysse ne sait faire que ça. Prendre par la ruse, ce que Achille savait pas faire, et tuer. Et donc les prétendants, c'est normal. Ils sont, comment dire, ils ont été tellement dans l'ubris que donc ils ont ce qu'ils méritent de certaine manière. Les servantes, c'est pas normal. Donc là, c'est vraiment, donc elles ont été servies sexuellement, si on peut dire, les prétendants. Et le massacre des prétendants, des servantes, est montré comme une chose abominable. Là où les dieux arrêtent la violence, c'est quand Ulysse s'apprête à massacrer les parents des prétendants, c'est-à-dire les gens de sa génération. Et dans ce cas-là, l'île d'Ithaque serait complètement dévastée, détruite, serait considérée comme était Troie, parce qu'à Troie, ils n'ont pas hésité, et c'est le fils d'Achille à tuer Priam. Mais Ulysse n'a qu'un scénario en tête, c'est pour ça qu'il n'y a aucune initiation dans l'Odyssée, il apprend strictement rien. Quoi. Et il veut répéter ce qu'il est, et parfois, il y avait comme face au Cyclope, etc., il peut pas, au Lestrigon, il peut pas, etc. Bon. Donc lui, il est le vainqueur de Troie, c'est dit au vers. Vers deux, c'est bon. Il n'est que ça. Et il a pas lu Hésiode, donc il sait pas comment un bon roi doit gouverner, etc. Donc, ce que Homère fait, enfin, l'Homère de l'Odyssée, les Homères de l'Odyssée font, là, ils prennent le personnage victorieux de l'Iliade, enfin, pas de l'Iliade, mais de la tradition de la guerre de Troie, ils le prennent, ils le déplacent dans le présent. Ils voient ce que ça donne. Et donc, on voit que les héros, ça marche pas. C'est pour ça qu'il y a dans les enfers, Achille qui dit, j'aurais préféré être ouvrier agricole. Donc il y a une espèce d'analyse critique de ce qui se passe dans la tradition iliadique, pas dans l'Iliade spécifiquement, mais dans tous ces poèmes héroïques, et donc on confronte avec le présent. Mais le massacre des prétendants, je veux dire, c'est une chose qui est normale.
Oui, bonjour Pierre-Judé Lacombe, Franck Collin. Oui, est-ce que vous pourriez nous parler, s'il vous plaît, de vos relations avec justement un auteur contemporain? Vous parlez de cet auteur chilien que je ne connais pas il y a quelques instants. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce que vous appréciez justement dans ces versions contemporaines de celle-ci ou une autre, hein, si vous préférez, d'Homère.
Je pense que c'est sur Bolaño, c'est ça, hein?
Bolaño, c'est ça. Oui. Voilà, je suis qu'à la moitié du roman Détective Sauvage. Non, ce que je trouve magnifique, et lui, en plus, il a, dans son roman Détective Sauvage, là, comment dire, il a un héros, donc qui est un poète mort maintenant, mexicain, qui s'appelle Ulysses Lima. C'est pas pour rien qu'il a pris Ulysses, parce que c'est à cause de Joyce aussi, et qui est un personnage extrêmement ironique. Et le, ce qui me frappe, c'est que, pour raconter, aussi dans 2666, raconter les catastrophes, les émotions, raconter aussi un milieu, comment un milieu se fait ou se défait dans chez Bolaño, dans le Détective Sauvage, c'est l'avant-garde littéraire, donc, à Mexico, dans les années 70, qui était où il y avait une espèce de grande efflorescence, là. Pour raconter ça, au lieu de construire, comment dire, un enchaînement causal, parce que nous, on n'a plus de Dieu, il n'y a pas Zeus, qui est là, on ne peut pas dire la volonté de Zeus s'est réalisée. Eh bien, il prend la forme du catalogue, mais il la prend strictement, c'est-à-dire qu'il prend tel jour, un tel, dans telle rue, à tel endroit, dit ça. Dans 2666, c'est surtout ce qui est fort, c'est la partie centrale, je trouve, la partie finale qui n'est pas achevée sur la Shoah me paraît beaucoup plus faible, mais il prend, pour décrire l'horreur, il fait comme Homère, c'est-à-dire que c'est dans la répétition formelle grâce à la répétition formelle et un strict principe formel qui n'est jamais défait et qui est un peu sec, extrêmement sec, qu'on peut retrouver non seulement l'émotion, mais qu'on peut retrouver la particularité de l'événement. C'est ça qui me paraît extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est le côté mécanique de la construction des romans, des grands romans de Bolaño, fait en sorte que du coup, le côté singulier, exceptionnel, de chaque expérience ou de chaque individu, de chaque peut apparaître, parce qu'on est tout le temps évidemment on est dans la comparaison, mais au-delà on est rassuré par la forme, on n'a pas du tout il n'y a pas aucun suspense, il n'y a pas de mutos au sens d'Aristote, absolument pas. Et donc c'est par là que on peut comprendre des expériences vécues extraordinairement précises, comme dans l'Iliade. C'est-à-dire dans l'Iliade, ce qui frappe, c'est un poème tellement généreux et tellement ouvert, c'est-à-dire qu'on donne même les victimes grecques ou troyennes ont droit à leur petite vignette. Et à chaque fois, ce sont des histoires complètes qui sont racontées. Et la succession formelle à l'identique, donc mécanique, permet ça. Donc c'est pas qu'on ait des scènes typiques, simplement, certes. Mais les scènes typiques permettent de faire voir des choses tout à fait particulières. Et alors, chez Homère, ce qu'il ajoute, ce sont des comparaisons, où là, d'un seul coup, le monde change. C'est-à-dire que ce sont des déplacements permanents. Vous voyez, quand le récit homérique, c'est ça. Ce sont des sauts. Et ça, on trouve ça, bon, chez Joyce, évidemment. On trouve ça chez Beckett. Ça qui me paraît tout à fait fort, mais qui lui connaissait très bien Homère. Donc, ce sont des sauts de chapitre en chapitre, même parfois de phrase en phrase. Et du coup, chaque phrase est entendue pour elle-même. Je sais pas si, parce que les phrases ne sont pas instrumentalisées comme étant des moments, des segments dans une construction linéaire. Chez Virginia Woolf, quand vous prenez les vagues, bon, c'est extraordinaire. Alors là, c'est vraiment le roman polyphonique, il n'y a même pas de narrateur. Et donc, il n'y a même pas la aide, quoi. Et donc, c'est qu'une juxtaposition. Je trouve que là, dans la juxtaposition, le montage, ça a été tellement théorisé, ça c'est vrai, mais le montage n'est pas une dissipation d'une voix, c'est un moyen au contraire de faire entendre un rapport tout à fait orienté vers le monde. Donc c'est pas le langage qui parle lui-même, tout ce qu'on nous a dit malheureusement en France, la littérature qui ne parle que de la littérature. Mais précisément quand la littérature devient vraiment artificielle, à ce moment-là, parler d'autre chose.
Alors, on a une deuxième question, c'est Madame Le Toublon.
Bonjour Pierre, ta vision d'Homère dans l'histoire, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu, par exemple, par rapport à Finlay, etc.
Oui, alors, ça c'est un grand, grand débat. Finlay a fait une chose extraordinaire, mais c'est comme les années 50, c'est-à-dire qu'il a fait une sociologie d'Homère en disant, on peut considérer le monde d'Homère comme un monde cohérent, en faire l'analyse économique, sociale, etc. C'est le monde d'Ulysse, c'est magnifique. Alors, donc c'était un seuil là que on peut pas revenir en arrière. Je dirais que le point, c'est pas qu'il a pas considéré la littérarité d'Homère, etc. Ça, il en parle lui-même. Ça c'est pas lui tout à fait conscient de ce qu'il fait, donc des limites même de ce qu'il fait. C'est-à-dire que là où j'aurais peut-être une différence, et je sais que ça beaucoup d'historiens actuels n'admettent pas le point de vue que j'essaie de développer, c'est que pour moi, les Achéens et les Troyens, c'est deux civilisations différentes. C'est-à-dire que c'est pas le même monde. C'est que ce sont deux civilisations au sens, ce sont deux organisations sociales de rapport au Dieu, de rapport à la filiation, de rapport à l'économie, qui sont opposés. Et aucun n'a existé, parce que ce qui est frappant, c'est que la Troie, bon, maintenant on connaît beaucoup mieux la fouille Troie, mais à l'époque de l'Iliade, c'était les Hittites. Et ça, Homère n'a visiblement jamais entendu parler de l'Empire Hittite. De même, la société achéenne, je trouve que là, les historiens ne s'en rendent pas assez, enfin, le disent pas assez, est une société qui n'a jamais existé. C'est-à-dire que le camp des Grecs à Troie n'a jamais existé. Enfin, pour les Grecs, ça a existé, mais ça ne correspond à aucune organisation politique existante dans la Grège d'Homère, du 8e, 7e siècle, même, ni même d'avant, où c'était séparé en cités-États. Il y avait 1200 cités-États, finalement. Donc, après, à l'époque mystique. Donc, c'est comme si Homère avait projeté des modèles d'analyse de ce qui fait société. Et donc il les met en confrontation. Troie, c'est une cité de la prospérité, de l'amour, cité naturelle, cité donc sur place, donc qui exporte ses richesses parce qu'ils vont acheter les alliés en leur donnant, en les nourrissant, en leur donnant des richesses, etc. Les Achéens, c'est une cité, je pense, contractuelle. Ils sont là uniquement pour défendre pour Ménélas. Et au contraire, ils font payer des amendes à ceux qui viennent pas. Bon, etc. Et donc, et le lien peut à tout moment se défaire, le lien entre les Achéens. La preuve, c'est qu'il se défait avec Achille. Et donc, je pense que les Grecs parlent tous la même langue, alors que les Troyens pas. Les Grecs savent marcher en silence au combat, alors que les Troyens, c'est comme des oiseaux qui crient n'importe comment, etc. Donc, il y a une vraie analyse de ce qui fait société, du fait social et politique, avec deux modèles différents. Alors là où je me suis fait taper dessus, j'ai dit, vous savez, c'est comme Échille dans les Perses, alors qu'il s'est battu à Salamine, il a repris ces modèles. Donc, et même Platon dans le Critias, etc. Donc, ce sont des modèles de, il y a une théorie politique chez Homère pour montrer qu'est-ce qui fait société. Et avec, je pense qu'il y en a au moins deux, puis même chez les Grecs, on peut dire, la Crète, c'est pas pareil, avec Minos, c'est pas pareil que le Péloponnèse, etc. Il analyse des phénomènes sociaux, et dans l'Odyssée, c'est ça à plein. Ce sont les cyclopes versus les phéaciens, les lestrigons, etc. Ce sont des modèles sociaux, des idées de société, un peu. Donc c'est là que je pense que Homère, que aussi il est réflexif. Donc c'est pas le reflet d'une société. Il se dit qu'est-ce qui fait le social. Alors, ça dépend de quand on date la cité grecque, par exemple. Je pense que déjà le camp grec est une cité, mais c'est une cité hors sol. Alors les historiens me disent mais oui, vous rigolez, parce qu'ils font en guerre, c'est pas une cité normale. Il y a pas de femmes, il y a pas de famille, y a pas, etc. Même pas de temps, peut-être. Et donc, effectivement, mais il analyse qu'est-ce qui peut faire un lien social versus les Troyens, où là, il y a le temple d'Athéna, le temple d'Athéna.
Bonjour, Brigitte Poitrenaud-Lamézy. Et donc, il y a plusieurs communications qui ont porté, en fait, sur les personnages féminins, notamment Pénélope, et sur la thématique de l'attente qui était proposée sous la forme de bon, est-ce que c'est une attente de résistance, est-ce que cette attente est un renoncement ou bien au contraire une forme de prise de pouvoir, de maîtrise du temps, est-ce que c'est, et j'avais envie de savoir comment vous perceviez ce personnage et ce que vous diriez sur cette question de l'attente de Pénélope.
Ça c'est vraiment intéressant parce que Pénélope, donc elle entre dans une série, évidemment Calypso, mais aussi arrêtait la femme d'Alcinoos chez les Phéaciens ou Athéna dit à Ulysse c'est elle qui commande, c'est elle qui a le pouvoir, mais un pouvoir politique parce que arrêtait, elle sait arrêter sans jeu de mots, hein, elle sait arrêter les querelles comme fait le bon roi chez Hésiode. Bon, ça c'est très surprenant. Il faudrait demander pourquoi c'est une femme qui est au pouvoir en fait, mais un pouvoir non déclaré parce qu'il y a quand même le roi dans un lieu qui est, une fois, la Californie, quoi. C'est l'hyper technologie, l'hyper moderne. Alors que Pénélope, c'est pas comme ça. Alors là, je pense qu'il y a une vraie réflexion, c'est-à-dire que c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que Pénélope, donc, c'est la femme de lui, mais courtisée par la génération d'après, par les prétendants. Et ça veut dire qu'elle est transgénérationnelle. Donc, l'identité. Alors, et effectivement, les prétendants la considèrent comme celle qui représente le foyer, mais comme un bien à acquérir. Et ce que fait Pénélope, l'attente, c'est que c'est la négation de ça, la négation de ce que les prétendants, qui sont des consommateurs, hein, qui mangent la viande et tout, ils veulent la manger, quoi, ils veulent la posséder. Et donc elle réinscrit le temps doublement. Alors c'est ça qui est tout à fait magnifique. D'une part dans l'identité à soi, donc comme si elle était strictement la même, et en même temps, elle, avec son tissage qu'elle défait, c'est l'alternance du jour et de la nuit. C'est-à-dire que elle, c'est moment après moment, c'est jour et nuit, jour après jour et nuit. C'est-à-dire, c'est ce temps-là. Et donc là, les poètes de l'Odyssée réfléchissent sur ce qu'on dit d'habitude de la permanence féminine comme le bien à gagner, qui parce que c'est la force créatrice, le bien qu'il faut posséder, parce que Pénélope ne se possède pas jusqu'au renversement final où Pénélope est la plus rusée, elle est plus rusée qu'Ulysse avec l'histoire du lit. Le lit que Ulysse, en bon gros mâle, donc a voulu faire avec son olivier planté, parce que c'est la racine, en plus c'est l'olivier, c'est l'huile, etc. Donc c'est la fécondité et tout ça. Elle dit, mon lit, on va le déplacer. Ce lit, on va le déplacer. Là, elle ruse, alors que le lit n'est pas déplacé, ne peut pas être déplacé. Et Ulysse, elle devient fou furieux. Elle est plus rusée qu'Ulysse. Donc c'est pas un poème féministe, ça je ne crois pas, mais c'est un poème quand même qui demande... qui demande aux auditeurs le symbole de la permanence féminine, etc. Reconsidérez-le. C'est aussi une chose qui est active et qui est rusée. C'est, mais pas rusée dans le sens de Médée, etc. magicienne. Non, c'est rusée dans le sens la permanence qu'est Pénélope ne peut se faire que par la rue. Et ça dénaturalise complètement ce que les hommes peuvent penser.
Bon, on va se laisser sur cette ouverture, hein, sur toute votre capacité de travail qui reste quand vous dites que vous n'avez pas encore assez travaillé sur la question, mais sur toutes ces ouvertures, voilà, que laisse le personnage de Pénélope à la discussion, voilà, et aux discussions futures. Voilà, on vous remercie, Pierre.
Moi qui vous remercie. Je vais retourner dans ma grotte maintenant.
Voilà, et puis on espère vous retrouver soit en visio, soit ici un jour, voilà, soit pour l'Odyssée, soit pour autre chose, enfin voilà. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, vraiment. Merci.
On vous dit au revoir.
Au revoir.